France Inter.
Bonjour à tous. La Nouvelle-Calédonie va-t-elle devoir repartir d'une feuille blanche? L'accord de Bougival est en passe d'être rejeté par les indépendantistes, faisant planer le risque d'un retour de la crise dans l'archipel. La moitié sud de la France suffoque sous une vague de chaleur qui s'intensifie aujourd'hui et qui fait craindre des départs de feux de forêt alors que 1000 pompiers luttent encore contre celui de l'Aude. L'Ukraine ne se laissera pas faire. La réponse de Zelensky face à un sommet Trump-Poutine prévu sans lui, alors qu'il est déjà question d'échanger de territoire entre Kiev et Moscou, le président ukrainien ne l'entend pas de cette oreille. C'est un match qui n'a d'amical que le nom. Rencontre ce soir en rugby entre Françaises et Anglaises, crunch de préparation avant le mondial féminin à la fin du mois. La météo pour cet après-midi, bonjour Virginie Ilson-Lévy.
Bonjour à tous.
Et la météo pour cet après-midi?
Ce sera très ensoleillé, très chaud, avec entre 35 et 40 degrés dans le sud.
Et le bulletin complet à la fin de ce journal.
France Inter.
Vers un retour à la case départ, ou presque, en Nouvelle-Calédonie, les indépendantistes du FLNKS sont sur le point de rejeter l'accord de Bougival, signé le 12 juillet dernier, il y a un mois. Ce texte concerne la souveraineté de l'archipel et vise à mettre un point final à la violente crise qui a secoué le territoire d'outre-mer l'année dernière. Il était présenté comme une avancée historique par le gouvernement français et par ses défenseurs, mais les membres du Front de Libération Kanak, réunis en congrès exceptionnel en ce moment, n'en veulent pas. Bonjour Timour.
Bonjour Flore, bonjour à tous.
Vu la tonalité de l'ouverture de ce congrès, bien le rejet semble inévitable.
Oui, à en croire en tout cas le discours d'introduction de Christian Théin, le président du FLNKS. Le congrès doit confirmer le rejet clair et sans ambiguïté du projet d'accord signé à Bougival. Lui-même s'exprime en visio. Depuis la métropole, la justice française lui interdit de se rendre en Nouvelle-Calédonie. Christian Théin dénonce cette signature de Bougival par une délégation qui, je cite, « n'avait aucun mandat pour le faire », une remise en cause notamment du député Emmanuel Tchibaou, signataire. Les différentes composantes du FLNKS vont-elles s'aligner sur cette position radicale? Christian Théin le demande à ses partenaires, mais jusqu'à présent, tous au FLNKS ne sont pas pour un rejet total de Bougival. On attend encore une déclaration de conclusion de ces discussions entre indépendantistes kanak.
Et face à ce revers qui s'annonce, Timour, le gouvernement ne veut pas dévier de son agenda et remettre en cause Bougival.
Oui, au ministère des Outre-mer, on a su rester sur une position de dialogue, mais il n'est pas question de repartir à zéro dans les négociations. Au contraire, le ministère a convié ses interlocuteurs calédoniens à joindre à la fin du mois un groupe de travail pour commencer la transcription en projet de loi de l'accord de Bougival, même si le FLNKS le rejette. Selon des propos rapportés par certains médias locaux, Christian Théin aurait prévenu être prêt à utiliser toutes les formes de lutte pour empêcher que le texte soit voté.
Et pour comprendre encore mieux ce que signifierait le refus de cet accord, nous sommes en ligne avec Benoît Trépied, anthropologue au CNRS, spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour.
Bonjour.
Le rejet de l'accord de Bougival, s'il est annoncé, est-ce que ça risque de plonger, une fois de plus, le dossier calédonien dans l'impasse?
Ah ben, c'est certain que là, tous les éléments qu'on a indiquent que le FNKS va rejeter cet accord de Bougival. Donc, sans la validation du FNKS, Bougival tombe mécaniquement, puisqu'il ne peut pas y avoir un accord si le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste est contre. Donc, on revient en marche arrière. Après, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que l'accord de Nouméa de 98, qui organisait la décolonisation jusqu'à présent de l'archipel, indiquait spécifiquement que tant qu'il n'y a pas de nouvel accord, l'accord de Nouméa continue de s'appliquer. Donc, on n'est pas dans un vide juridique ni politique. De même qu'il y a trois mois, il y avait eu un projet d'accord porté par l'État, soutenu par les indépendantistes et refusé par les loyalistes, qui avait dit c'est pas grave, mieux vaut ne pas signer d'accord qu'un mauvais accord et les institutions continuent de tourner. En fait, on est dans la même situation.
Et donc on a, vous le disiez, un recul. Est-ce que face à cette situation-là, on peut quand même imaginer qu'un chemin commun reste possible, un accord reste possible entre loyalistes et indépendantistes, ou est-ce qu'ils sont tout simplement trop divisés en Nouvelle-Calédonie?
Depuis que l'État français, sous l'impulsion d'Emmanuel Macron en 2021, a changé la ligne de l'État et a fait sortir l'État de son impartialité pour s'allier explicitement au camp loyaliste, à partir de ce moment-là, le ver a été dans le fruit. Et depuis, on n'en sort pas, c'est-à-dire que cette position-là n'a fait que cliver, finalement, et éloigner les gens, entre d'un côté des loyalistes et d'autre part les indépendantistes. On a vu l'année dernière, à l'occasion de ce soulèvement politique et social qui a mis le pays à feu et à sang. Aujourd'hui, les positions sont effectivement très éloignées et rien n'indique, en tout cas, on n'a aucune idée de la façon dont un compromis pourrait sortir, vu l'éloignement des positions.
Est-ce qu'on peut imaginer une radicalisation des indépendantistes ou justement peut-être une ouverture à réfléchir à des manières de réécrire peut-être cet accord de Bougival ?
Ah non, je pense que l'accord de Bougival, il est mort et enterré parce qu'en fait, c'est un accord qui n'évoque pas le peuple kanak, mais le peuple calédonien, qui organise un état de la Calédonie, mais dans l'ensemble français, qui organise une nationalité calédonienne soumise à la nationalité française. Donc, il y a un certain nombre de lignes rouges qui ont été franchies du point de vue des indépendantistes. Donc, je pense pas que Bougival puisse être sauvé. En revanche, il y a 3 mois, à Deva, il y avait un accord qui avait l'accord le soutien de tous les indépendantistes, des centristes, des loyalistes modérés et ce qui était un accord de souveraineté partagée avec la France. Ce point-là, en fait, cet accord a été refusé à l'époque par les loyalistes qui ont fait appel à Emmanuel Macron. Et je pense qu'il faudrait revenir à ce moment de débat où il y a eu un consensus qui a été poussé et puis peut-être organiser un référendum pour savoir finalement ce que le peuple de Nouvelle-Calédonie veut entre toutes ces différents paramètres. Parce qu'il y a un autre point qui est très important, c'est que l'accord de Bougival repousse une nouvelle fois les élections provinciales. Or, ces élections provinciales, elles devaient se tenir à l'origine en mai 2024. Donc là, on est sur un prolongement de 2 années de mandat, ce qui fait que les personnels.
Benoît Trépied, est-ce que dans ce contexte. Benoît Trépied, est-ce que dans ce contexte de report des élections avec cet accord, la position du gouvernement qui est de dire on a envie que cet accord passe tout de même, elle n'est pas un peu dangereuse?
Ah si. Passer en force sur l'accord de Bougival sans le soutien du FNKS, c'est l'assurance de remettre le feu au pays. Parce que l'année dernière, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire un passage en force du gouvernement malgré le refus des indépendantistes. En fait, on ne peut pas trouver de solution sans le peuple kanak. C'était Jean-Marie Tjibaou, le leader indépendantiste, qui disait le problème dans ce beau pays, c'est la présence kanak. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer outre, que vous le vouliez ou non, que ça vous arrange ou pas, l'avis du FNKS qui est le représentant, le mouvement de libération du peuple le Kanak, peuple colonisé qui lutte pour son émancipation.
Une situation qui s'embourbe donc encore un peu plus en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, oui. Benoît Trépied, anthropologue au CNRS et spécialiste de la question.
France Inter, le journal de 13h, Flore Catala.
28 départements en vigilance orange canicule aujourd'hui. 40 demain, toute la moitié sud de la France transpire sous des températures parfois dépassant les 40 degrés. La vague de chaleur s'étend jusque dans le centre du pays, pas toujours habitué à un thermomètre qui grimpe autant. Exemple, dans l'Allier, Alexandre Berthaud, où les chaleurs bousculent un peu les habitudes.
Il a dû se lever aux aurores, 5h du matin, Jean-Marc Caillot, pour ouvrir la barrière de son camping de la Route Bleue à La Palisse.
Les gens partent très très tôt, les camping-cars, pour vraiment voyager le matin et être le plus tôt possible à leur prochaine étape.
Son camping est également lieu de passage recommandé pour les voyageurs à vélo, pour qui la canicule évidemment modifie les plans.
Le truc, c'est qu'au lieu de rester une seule nuit, ils restent 2 nuits parce qu'ils n'arrivent pas à se reposer correctement.
Cet après-midi, on prévoit 39 degrés à La Palisse. Même chose à Montluçon, pas le temps idéal pour vendre des pizzas. C'est pourtant le métier de Laurence Cobb à Pizza Maestro.
Aujourd'hui midi, demain midi, je vais être ouvert. Mais si ça continue lundi, mardi, mercredi, le midi, je serai fermé. Parce que les gens vont pas sortir, ils vont rester enfermés et décaler plus le service sur une fin de soirée à 22, 23 heures.
Changer ses horaires ou bien ses destinations, se rendre à Vichy, par exemple, ville thermale, très verte, très ombragée, à La Picoge, y est guide conférencière.
Nous avons beaucoup, beaucoup de parcs, vraiment. Et quand vous êtes au bord de l'Allier, psychologiquement, ça passe mieux. Il y a beaucoup de gens qui se promènent et même si l'air est assez chaud, voilà, on peut quand même se cacher un petit peu à l'ombre.
Demain, les températures dans l'Allier devraient baisser de 2 ou 3 degrés selon Météo France.
Et ces chaleurs étouffantes sur toute la France qui font aussi craindre des départs d'incendies alors que celui de l'Aude est fixé mais pas encore maîtrisé après avoir parcouru au moins 16 000 hectares. Le feu ne pourra pas être éteint avant demain, avertissent les pompiers, encore plus d'un millier sur place. Et en attendant, tous les habitants évacués ont pu rentrer chez eux dans le secteur, un semblant de retour à la normale, avec tout de même encore une interrogation sur l'eau potable. 9 communes de l'Aude ont consigne de ne pas en consommer, comme vous l'avez constaté Arthur Fradin à Thézan-des-Corbières.
Oui, dans la rue principale du village, tout le monde est en effet loin d'être au courant des recommandations passées par la préfecture.
Moi j'ai rebu l'eau, l'eau n'a pas d'odeur ni de couleur différente, non, elle est toujours potable.
Et il faut pousser la porte de l'épicerie des Corbières un peu plus loin pour trouver quelqu'un d'un peu plus informé, Fabienne, venue visiter sa belle famille.
Je viens d'apprendre en allant chez le tabac qu'il fallait plus boire l'eau, c'est tout. Donc on a pris un pack d'eau. En attendant ce soir qu'on nous dise si ça va ou pas.
Stéphanie est la gérante, a elle été avertie.
Ce matin, c'est le préfet de l'Aude. Vers 8h, ils nous ont envoyé un message comme quoi il ne faut pas boire de l'eau. Bon, on en a déjà fait du stock, maintenant on va voir. Ils sont en train d'analyser, ils vont nous dire ça peut-être dans la journée.
C'est d'ailleurs en écoutant la conversation que cette grand-mère décide elle aussi de refaire le plein.
Comme j'ai ma petite fille que je viens de la prendre, je vais prendre de l'eau.
Par précaution?
Ben, on va voir, oui. Bon, après, il faudrait savoir ce qu'ils cherchent dans l'eau. Peut-être les retardants, non?
Des analyses sont donc en cours pour s'assurer de la potabilité dans ces 9 communes. Dans les autres communes voisines touchées par l'incendie, il est recommandé de laisser couler les robinets 2 minutes avant de consommer l'eau. Même consigne avant de se laver.
Attention à l'eau potable, donc, et la vigilance reste de mise sur la possible reprise du feu dans le secteur ainsi qu'ailleurs en France au vu des chaleurs caniculaires, mais aussi du monde sur la route. Plus de 1200 km de bouchons cumulés d'après Bison Futé, notamment sur les autoroutes A7 et A9 à la mi-journée. La circulation est difficile, classée orange et rouge partout sur le territoire pour ce nouveau week-end de chassé-croisé des vacances. Près de 250 sans-abri maintiennent leur campement devant la mairie de Paris sur le parvis de l'hôtel de ville et ils comptent bien y rester jusqu'à ce que l'État leur propose des solutions d'hébergement d'urgence, des familles avec parfois des enfants en bas âge installés là pour tout le week-end et sous la chaleur pour protester contre le manque d'accompagnement. On ne s'échange pas des territoires comme on s'échange des cartes à jouer. Voilà la position de l'Ukraine, très remontée contre ce sommet Trump-Poutine qui s'organise sans elle. Rencontre bilatérale qui aura lieu la semaine prochaine, vendredi 15 août en Alaska, a annoncé cette nuit le président américain, évoquant un troc de territoires pour régler le conflit en Ukraine. Une solution qui a suscité une vive réaction à Kiev, Bastien Bory.
Volodymyr Zelensky prévient « Toute négociation de paix sans le consentement de l'Ukraine ni le respect de ses frontières serait vaine. »
La réponse aux discussions sur l'avenir de notre intégrité territoriale se trouve dans la constitution ukrainienne. Nul n'y échappera. L'Ukraine n'offrira aucun pouce de son territoire à l'occupant. Nous ne récompenserons jamais la Russie pour ce qu'elle a commis.
Mais dans cette allocution prononcée ce matin, la fermeté de ton peine à masquer une marge de manœuvre de plus en plus réduite. Car en interne, la popularité du président Zelensky recule. 91% en 2022, 58% désormais. Sa survie politique dépendra donc de ses succès diplomatiques futurs, déjà limités par la perspective d'une rencontre bilatérale Trump-Poutine. Et Moscou le sait, l'hypothèse d'un accord de paix consacrant la souveraineté russe sur les oblasts de Donetsk et Luhansk, évoquée aujourd'hui dans la presse américaine, nécessiterait en effet une modification constitutionnelle en Ukraine, une procédure à haut risque pour Volodymyr Zelensky. À Kiev, Bastien Bory, France Inter.
Le plan d'Israël pour prendre le contrôle de Gaza, condamné d'une même voix par la communauté internationale, à laquelle s'ajoute ce matin une vingtaine de pays arabes et musulmans. Et face au risque d'escalade que représente ce plan militaire israélien dans l'enclave palestinienne, l'ONU se réunit aujourd'hui en Conseil de sécurité d'urgence. Grosse frayeur en Espagne après un début d'incendie à la mosquée cathédrale de Cordoue. Le pays est passé à deux doigts de vivre ce que la France a connu avec Notre-Dame de Paris. Mais les flammes ont heureusement été rapidement maîtrisées par les pompiers. Le site a pu rouvrir ses portes au public dans la matinée. Elles sont les meilleures ennemies du rugby féminin. Françaises et anglaises s'affrontent ce soir en match amical à 2 semaines du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Un crunch au goût de revanche pour les Bleus après s'être fait chipper le tournoi destination par le 15 à la Rose. Le match de ce soir a lieu dans les Landes, à Mont-de-Marsan. Match de préparation qui plonge déjà les Françaises dans le bain de la compétition. Guillaume Drechler.
C'est la seule et ultime répétition avant la Coupe du Monde. France-Angleterre, un match entre ennemis, loin d'être amical.
Ça reste quand même un crunch.
La troisième ligne du stade toulousain, Charlotte Escudero.
Les Anglais, ça reste toujours un match particulier. C'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé de match amical. Forcément, il y a toujours un peu cette frustration des défaites contre les Anglaises et surtout à un point.
Difficile de ne pas repenser à cette défaite d'un point à Twickenham le 26 avril dernier pour décider de la victoire dans le tournoi des 6 nations. Mais plus de 3 mois plus tard, ce n'est pas une revanche pour la buteuse du 15 de France, l'arrière bordelaise Morgane Bourgeois.
On parle beaucoup de revanche, mais nous ce qu'on veut avant tout, comme je vous l'ai dit, c'est une évaluation un petit peu de tout ce qu'on a construit depuis 3 ans, ce qu'on a construit cet été-là. Si on avait en tête tous les matchs qu'on avait perdus contre les Anglais, ça ferait beaucoup de revanches à prendre.
Après l'annonce de la liste des 32 et le départ de Marc Coussy pour les Landes, le crunch marque un nouveau moment important de la préparation pour le Mondial. La co-sélectionneuse Gaëlle Mignot.
On a envie de voir tout ce qu'on a travaillé, de voir ce que les filles ont digéré, de voir où on en est de notre préparation. C'est une de notre volonté de jouer un match en France. de sentir aussi l'appui du public.
Plus de 7000 personnes sont attendues pour soutenir le 15 de France à tout juste 2 semaines de son entrée en lice contre l'Italie.
Un public des grands jours pour ce France-Angleterre de préparation au Mondial féminin de rugby, coup d'envoi à Mont-Marsan à 21h10. La météo avec Virginie Nilsson-Lévy. On pourrait approcher les 40 degrés dans le sud ce samedi après-midi.
Oui, de très fortes chaleurs dans le sud-ouest vers l'Auvergne et la vallée du Rhône. Les températures atteindront bien souvent 38 à 40 degrés à l'ombre, 35 à 38 degrés dans les autres régions du sud. Ce sera un peu plus supportable grâce au vent marin sur les plages de la Méditerranée ou de l'Atlantique. 25 à 34 degrés avec par exemple 26 degrés à Biarritz. Au nord, la chaleur est plus tempérée avec 25 à 28 degrés près des côtes de la Manche, 29 à 32 degrés dans l'intérieur des terres avec 22 degrés attendu à Brest, 30 à Paris et Nantes et jusqu'à 26 degrés à Rennes.
Et le soleil brille quasiment partout.
À l'exception des côtes de la Manche et sur les rivages du Languedoc-Roussillon avec quelques nuages bas côtiers qui résistent, ça limite un petit peu la hausse des températures de façon localisée. Sur le relief des Pyrénées et du Massif central, des nuages pourront donner des orages en fin de journée, soyez prudents. Ciel bleu avec un indice UV de 7 à 8 et puis ce dimanche, forte chaleur qui vont gagner les littoraux de la moitié sud avec à nouveau plus de 35 degrés sur les côtes et 40 degrés dans les terres.
Merci Virginie Ilson-Lévy.